Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Le problème, c'est quand vous multipliez les exceptions, on ne comprend plus la règle. Et c'est un peu le cas depuis le départ.
Sitôt décrété, sitôt annulé. Moins d'une heure après son entrée en vigueur, le port du masque à vélo à Paris est passé d'obligatoire à non-obligatoire, laissant les Parisiens perplexes.
On va revenir sur ce couac, évidemment, ce soir, ou sur ce rétro-pédalage, pour rester dans la rhétorique vélo. Et on verra que les consignes valables dans une commune ne le sont pas forcément dans d'autres. C'est ce qu'on appelle la décentralisation.
La sécurité, au cœur d'une passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Grenoble. Face aux dealers, l'un prône la méthode musclée, l'autre dénonce une récupération politique.
C'est l'un des plus gros butins depuis le casse du siècle de Tony Musulin. 9 millions d'euros ont été volés dans l'attaque d'un fourgon de la société Lomis ce matin à Lyon.
Un magasin Leclerc interdit de racheter un géant casino dans l'Aube au motif que ce serait la porte ouverte à une hausse des prix pour les consommateurs. C'est une première.
Et puis le coup d'envoi du festival de cinéma d'Angoulême. C'est une bonne nouvelle. Envers et contre tout, les stars sont au rendez-vous.
La bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,26% à 5002 points.
La tendance météo avec Anissa, un temps très agité et des vigilances, c'est ça?
Oui, prudence. Les Pyrénées-Orientales et la Principauté d'Andorre sont placées en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Demain, le temps est encore très pluvieux avec des températures en baisse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Bien.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Théoriquement, ce matin à 8h, les choses devaient être claires, Isabelle, dans la capitale, masque obligatoire pour tout le monde.
Oui, ça c'était la théorie, hein, parce que dans les faits, il y a eu un petit moment de flottement qui a laissé les Parisiens, comment dire, perplexes. 50 minutes qui ont suffi, Justin Morin, à embrouiller tout le monde.
Oui, même nos contacts presse habituels au sein de la mairie de Paris et de la préfecture ont eu du mal à suivre, c'est vous dire. Pourtant, au départ, c'était simple, masque partout, tout le temps, pour tout le monde. Mais ce matin, 8h42, soit 42 minutes après l'application de la règle, nouveau communiqué, ces masques pour tout le monde, sauf pour ceux qui, je cite, exercent une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo. Ensuite, les élus se sont aussi contredits sur la cigarette. L'adjointe à la santé a d'abord annoncé qu'il était interdit d'enlever le masque et donc de fumer dans l'espace public. Mais rapidement, un autre élu a rectifié. Bref, forcément, chez les Parisiens interviewés par Pierre Herbulot, on a du mal à suivre.
Bah, le problème, c'est quand vous multipliez les exceptions, on ne comprend plus la règle. Et c'est un peu le cas depuis le départ, quoi.
C'est vrai que généraliser le port du masque, vu qu'il n'y a aucune étude, j'allais dire scientifique ou médicale, qui approuve, qui teste en fait que le masque peut être utile en extérieur, c'est vrai que c'est peut-être un peu débile. Mais après, si c'est une obligation, on va le mettre.
Enfin, ce soir, on peut le dire avec certitude, la règle à Paris est dans la première couronne, c'est le bon sens, c'est-à-dire masque partout, mais tolérance pour les deux roues et les joggeurs.
Bon, maintenant, les choses sont claires, en tout cas, on l'espère pour tout le monde. Ce qu'il faut préciser aussi, Justin Morin, c'est que ce que vous venez de nous dire là est valable pour Paris et la petite couronne, donc, mais pas forcément pour les autres villes où le masque est également obligatoire. Et c'est tout à fait normal, puisque ces décisions, eh bien, on le rappelle, elles sont prises au niveau local.
Exactement. Prenez Toulouse, le masque est obligatoire dans l'espace public depuis une semaine, sans dérogation pour le moment. Mais vu la situation, le préfet pourrait assouplir la règle. À Lille, où le masque doit être porté depuis le début du mois, la préfecture vient d'annoncer une tolérance pour les vélos et les trottinettes. Idem à Montpellier, à Marseille aussi. Demain, à partir de 8h, masque obligatoire à Strasbourg et dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin. Enfin, à Bordeaux, la règle vaudra pour la majeure partie du centre-ville à partir de lundi.
Voilà qui est clair. Merci pour ces précisions importantes, Justin Morin. Des règles différentes donc, il suffit d'avoir le bon mode d'emploi.
Ouais, et si vous êtes dans l'Hérault actuellement, sachez qu'il est désormais interdit de danser dans les bars et dans les lieux publics, qu'ils soient couverts ou non. L'Hérault, on le rappelle, placé en rouge hier.
En visite dans un laboratoire pharmaceutique de banlieue parisienne ce matin, Emmanuel Macron, masqué donc, a volontiers reconnu que le masque était une contrainte raisonnable mais essentielle pour éviter, dit-il, le regain de l'épidémie.
Comme vous, je n'aime pas le porter, c'est gênant, c'est pénible. Les gestes barrières, a-t-il dit, ne sont pas naturels dans nos habitudes de peuple latin.
Le chef de l'État qui a indiqué que 15 des 100 milliards d'euros du plan de relance du gouvernement, qui sera présenté donc jeudi, seront destinés à l'innovation et aux relocalisations afin de ne plus dépendre du reste du monde, notamment eh bien, dans la production de médicaments.
Et puis à propos de cette pandémie, toujours cette dernière minute, la Hongrie a décidé ce soir de refermer ses frontières par peur du virus. À partir de mardi, aucun étranger ne pourra rentrer dans le pays et les ressortissants hongrois de retour chez eux seront mis en quarantaine systématiquement pendant 14 jours, à moins de présenter deux test négatif.
18h04, la suite du journal avec Isabelle Millet. La sécurité, on en parle maintenant. Comme à chaque fois d'ailleurs, l'un des enjeux de la prochaine présidentielle, ce sera véritablement la sécurité, ou plutôt l'insécurité. Les politiques s'en emparent les uns après les autres.
Oui, illustration avec cette passe d'armes entre le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
On vous a parlé cette semaine sur Europe 1 de cette vidéo tournée par des caïds, des dealers armés jusqu'aux dents dans le quartier du Mistral à Grenoble, dont se mettant en scène près d'une aire de jeux pour enfants. Avant-hier, à la demande du ministre de l'Intérieur, une descente de police a eu lieu dans le quartier.
Et Adrien Beck, c'est à partir de ce moment-là que le ton est monté entre Éric Piolle et Gérald Darmanin.
Oui, le maire de Grenoble n'a semble-t-il pas beaucoup apprécié l'opération de police annoncée par Gérald Darmanin lui-même sur les réseaux sociaux. Opération de communication a très vite réagi Éric Piolle à la télévision. Alors c'est vrai qu'il n'y a eu ni interpellation, ni saisie, seulement une cinquantaine de contrôles. Peu apprécié aussi l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à qui Éric Piolle dit avoir écrit pour lui demander des renforts policiers. Finalement, Éric Piolle, sa réponse, eh bien, il l'a eue aujourd'hui. Une lettre de 2 pages, au ton, il faut le dire, assez acide, et une critique de la politique de sécurité du maire écologiste, des policiers municipaux qui ne portent pas d'armes à feu, des effectifs par habitant bien plus faibles qu'à Nice, par exemple. Et surtout, le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à pointer un manque d'implication de la ville. À travers cet échange, ce sont en fait 2 conceptions de la sécurité qui s'affrontent. Éric Piolle, qui fait en ce moment des pas en direction de la présidentielle de 2022, est régulièrement accusé de manquer de réalisme face à la criminalité à Grenoble. Alors va-t-on avoir droit à un nouvel épisode, à une réponse à la réponse de la réponse? Eh bien sans doute oui, puisqu'Éric Piolle a prévu de s'exprimer une nouvelle fois à la télévision ce soir.
Et vous suivrez ça pour nous, bien sûr, Adrien. Bien Beck, du service politique d'Europe.
Un fourgon blindé attaqué ce matin dans le 7e arrondissement de Lyon.
Alors, il n'y a pas eu de blessés, mais on connaît désormais, Guillaume Bier, le montant du butin. C'est un montant record.
9 millions d'euros. C'est effectivement le plus gros butin en argent liquide volé par des malfaiteurs depuis l'affaire Tony Musulin, ce convoyeur de fonds qui avait lui-même dérobé 11 millions 6. Là, on parle bien d'un braquage. C'était donc ce matin, 8h55. Un fourgon blindé de la société Lomis sort tout juste d'une succursale de la Banque de France lorsqu'il est coincé, pris en étau entre 2 utilitaires. Un commando d'au moins 5 hommes lourdement armés met en joue les convoyeurs et leur intime l'ordre d'ouvrir la porte du fourgon, ce qu'ils font. Les malfrats n'ont eu qu'à se servir des grands sacs remplis de billets, 9 millions d'euros volés avec sang-froid, sans violence, sans un coup de feu. Avant de s'enfuir, les braqueurs ont incendié leurs utilitaires et le fourgon Lomis. Ils sont partis à bord de 2 voitures puissantes, retrouvées elles aussi brûlées quelques kilomètres plus loin. Attaque minutieusement préparée, même technique que les gangs spécialisés qui sévissaient il y a 15 ou 20 ans. Un braquage à l'ancienne, pourrait-on dire, sur lequel la BRB, la Brigade de répression du banditisme de la PJ lyonnaise, enquête actuellement.
Précision signée Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Merci Guillaume. Dans les Yvelines, un magasin éventré par l'explosion d'un distributeur automatique de billets. Ça s'est passé à Mézières-sur-Seine, un peu avant 10h du matin, à l'entrée d'un Carrefour Market, alors qu'il y avait beaucoup de monde autour, ce qui est quand même assez inédit. Explosion qui a fait 30 de blessés légers. 4 personnes ont dû être transférées quand même à l'hôpital.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du journal à 18h10, Isabelle Millet, c'est une décision inédite qui vient d'être prise par l'autorité de la concurrence dans la région de Troyes, dans l'Aube.
Alors pour faire simple, Élise Dangean, elle vient d'interdire à un Leclerc de racheter un géant casino.
Absolument. Pas question pour l'autorité de la concurrence de laisser toute une zone commerciale aux mains de 2 enseignes seulement, car c'est ce qui se profilait avec cette opération de concentration. Concrètement, dans l'agglomération troyenne, il y a actuellement 3 enseignes d'hypermarché. Carrefour, Leclerc et le fameux géant casino visé par une procédure de rachat. Sauf qu'avec cette opération, l'un des concurrents sort du jeu, ne reste plus que Carrefour et Leclerc, avec chacun 2 hypermarchés. Et c'est ce qu'on appelle une situation de duopole. Alors le terme peut paraître un petit peu abstrait, et pourtant il a des conséquences très concrètes sur nous consommateurs, comme le rappelle Isabelle De Silva, présidente de l'autorité de la concurrence.
Au terme de cette analyse, nous avons pu constater que les prix risquaient d'augmenter, non seulement dans le magasin qui était acheté, mais aussi dans les autres magasins de la zone. Et ça parce qu'on n'aurait plus que 2 enseignes, donc d'un côté les 2 magasins Leclerc et de l'autre les 2 magasins Carrefour. Donc notre inquiétude c'était... que cette opération conduise non seulement à réduire la concurrence, mais aussi à avoir des impacts très concrets sur le consommateur.
Alors c'est pour ça que l'autorité de la concurrence recommande la présence d'au moins 3 à 4 enseignes par zone commerciale. Et si c'est la première fois qu'elle doit interdire une telle opération, eh bien c'est parce que d'habitude les enseignes retirent leur offre de rachat si aucune solution ne peut être trouvée pour préserver cette fameuse concurrence. Là, Leclerc a voulu aller jusqu'au bout et a perdu.
Merci beaucoup Élise Dangean. Au Japon, c'était dans l'air, c'est confirmé, le Premier ministre Shinzo Abe va démissionner.
65 ans, il avait 65 ans, il invoque des raisons de santé, une maladie chronique, il était au pouvoir depuis 8 ans, ce qui est un record de longévité dans ce pays.
Des nouvelles de l'état de santé de l'opposant russe, Alexei Navalny, empoisonné, hospitalisé à Berlin, les médecins allemands parlent d'amélioration.
Trois mots pour l'histoire, 28 août 1963, 28 août 2020, Washington s'apprête à célébrer le 57e anniversaire du célèbre discours de Martin Luther King.
I Have a Dream avait plusieurs fois répété le leader pour la lutte des droits civiques, un anniversaire qui intervient bien sûr en pleine affaire Jacob Blake. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont d'ailleurs attendus aujourd'hui dans la capitale américaine.
Et on vous racontera les coulisses de ce discours historique tout à l'heure à 19h50 dans la chronique Le Jour Où. En Russie, le limogeage d'un homme qui dérangeait trop le patron de la lutte antidopage.
Depuis sa prise de fonction il y a 3 ans, il dénonçait régulièrement l'inertie du pouvoir sportif russe en matière de lutte contre la tricherie. La Russie qui s'est retrouvée, vous le savez, au cœur d'un scandale de dopage provoquant son exclusion des Jeux Olympiques et de toutes les compétitions sportives mondiales pour 4 ans.
Du nouveau peut-être, Isabelle, dans le feuilleton Lionel Messi, on en parlait hier, qui veut quitter Barcelone.
Et oui, Manchester City est pour l'instant sur les rangs pour l'accueillir et semblait jusqu'ici favorite jusqu'à ce coup de fil du directeur sportif du PSG, Leonardo. Il aurait appelé le père de Messi, qui est aussi son agent, pour lui faire part de l'intérêt du club parisien à suivre. Donc.
À suivre. Demain, c'est le départ du Tour de France à Nice avec un peu de retard, 2 mois de retard quasiment, dans des conditions particulières. On en parle juste après ce journal, justement, avec un grand champion français, Bernard Hinault, évidemment.
Évidemment. Et conditions particulières aussi pour le Festival de cinéma d'Angoulême qui démarre ce soir. Mathieu Charrier, vous êtes sur place pour Europe 1. Vous êtes notre spécialiste cinéma. Premier rendez-vous masqué, mais avec quand même beaucoup de stars attendues.
Oui, masqué, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque pendant ce festival, le port du masque est obligatoire dans toute la ville d'Angoulême et dans les salles de cinéma. Le Premier ministre devrait d'ailleurs préciser dans son discours, prévu vers 19h, quand cette mesure sera généralisée au reste du pays. Et puis habituellement, à Angoulême, vous savez, les festivaliers attendent des heures pour aller voir des films. Dans une bonne ambiance, ils discutent cinéma. Là, aucune file d'attente. Il faut pré-réserver sa place. Pour le reste, l'objectif affiché est clair. Redonner envie aux gens d'aller au cinéma. Donc, l'offre de films est alléchante et les stars viennent présenter leurs films. Blanche Gardin, Corinne Mazier, Denis Podalydès seront là ce soir pour l'ouverture avec leur Effacer l'historique, signé Carverne et Delépine. Demain, présentation du nouveau Albert Dupontel. Adieu les cons, c'est le titre, avec notamment Virginie Efira. On verra aussi Emmanuel Béart, Cadmerat, Josiane Balasco, Catherine Fro, Isabelle Adjani. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le programme qui se clôturera quand même avec Isabelle Huppert en trafiquante de drogue dans la Daronne. Ça, ce sera mercredi. Donc c'est vrai que c'est un beau programme et ces films arriveront ensuite dans les salles d'ici la fin de l'année. J'en ai déjà vu quelques-uns, c'est du très bon niveau. Donc l'offre sera là pour attirer le public, masqué dans les salles. Mais j'ai testé 2 séances aujourd'hui. Franchement, c'est très supportable. On oublie vite le masque. Angoulême se veut être le détonateur de la reprise du cinéma, dixit Dominique Besnéard, le délégué général.
On oublie le masque, on oublie les pop-corn aussi. Ça, c'est
oui,
bien.
Oui, Mathieu c'est Charrier. Je ne sais pas, ça dépend pour qui.
Moi, j'aime beaucoup qu'on oublie les pop-corn, personnellement.
Merci Isabelle Millet. À tout à l'heure. La météo.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Bon, en tout cas, le cinéma et les pop-corn, c'est peut-être une bonne piste pour le week-end, Anissa, parce qu'on annonce un changement de temps, c'est ça ?
Excellente idée, effectivement, Julien, pour ce week-end, parce que nous avons des conditions automnales. C'est un temps digne d'une fin septembre, début octobre ce week-end, avec demain matin sur le quart sud-est de l'Aude, aux Alpes-Maritimes et en Corse, des pluies très soutenues dès le début de journée. Ces pluies seront accompagnées de coups de tonnerre. Attention, on attend dans ce secteur du sud-est des cumuls très importants d'eau, donc prudence. Dans l'après-midi, les averses vont devenir de plus en plus fréquentes, elles vont se généraliser sur tout le pays, avec sur les Pays de la Loire et la région parisienne, demain après-midi, des orages sur les côtes de la Manche, de la mer du Nord, en Bretagne et jusque sur les Pyrénées-Atlantiques. Et bien là, c'est le vent du nord qui se lève, il souffle fort demain avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Et forcément, quand le vent du nord souffle, les températures, elles baissent. 9 degrés
forcément.
À Rennes demain matin, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, jusqu'à 21 degrés encore demain matin à Ajaccio, ça reste agréable. Et puis dans l'après-midi, c'est vraiment frais. 17 à Saint-Brieuc, 19 à Belfort et Lille, 20 pour Paris, 22 à Strasbourg et Lyon, 25 à Perpignan. Il reste encore quelques villes où c'est l'été indien, 25 à Marseille, 28 à Nice et 32 pour Ajaccio.
Et ça vous fait sourire. Bah, ouais. Bravo. Merci Anissa.